Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Bernard Saunier, qui est formateur au Centre d'apprentissage Chanté et rétablissement. Il va nous parler de son expérience là-bas, à l'espresso et à l'espresso allongé. Pierre nous amène son sujet, violence conjugale et télé-thérapie. Nos chroniqueuses Marjolaine Rivet-Bourgard et Justine Fortin nous présentent leur chronique « La communication scientifique ». On commence d'abord en chanson avec « Cœur de pirate ». La chanson s'intitule « On s'aimera toujours ». Bienvenue à Folie douce.
La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à Folie douce.
Bien, j'ai le plaisir d'accueillir notre collaborateur Bernard Saunier. Bonjour Bernard.
Salut Yvan.
Bel et bien en studio. Donc la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était par téléphone. Puis là,
t'as envie vraie.
Ben oui, en chair et en os devant moi. Puis on est ensemble dans un studio. Fait que c'est super. Aujourd'hui, bien sûr, tu t'impliques dans beaucoup de choses depuis... On a souvent raconté ton histoire, tu sais, t'es schizophrène, tu t'assumes, puis...
Moi, je dis pas que je suis schizophrène, je dis que je souffre d'une maladie.
OK.
Qui est la schizophrénie, c'est très différent.
Donc, tu t'identifies pas, je suis pas schizophrène, je souffre de schizophrénie, t'as raison de me...
S'identifier, ça fait partie...
C'est vrai.
Tu sais, je voulais vous parler du rétablissement aujourd'hui, puis ça fait partie du rétablissement,
ouais.
Ça aussi.
que je voulais dire, moi, c'est ça, dans le fond, t'assumes la situation, puis t'as pas peur de le dire, tu sais, ouvertement, non. À la télé, comme à la radio, dans les médias, là, dans les
c'est
journaux.
C'est ça, mais l'idée, c'est toujours l'idée du rétablissement ouais. qu'on a avec... Je vais t'en parler tout de suite d'entrée de jeu, le Recovery College,
c'est
le centre d'apprentissage santé rétablissement.
C'est ça, tu t'impliques dans ça, qui est quand même c'est quand même assez récent au Québec, là, le centre d'apprentissage santé rétablissement.
Ça fait pas, on parlait de ça hier, ça fait à peine 10 ans que c'est sur pied.
Et c'est inspiré sur un modèle, je pense, en Angleterre.
En Angleterre,
nous avait parlé.
Oui.
Qu'est-ce que c'est, juste pour nous résumer encore un peu ce que c'est, ou faire le portrait pour
en
les
fait,
gens?
En fait, c'est des formations... Des formations en co-construction. On travaille avec les... Moi, je suis un formateur, puis je travaille avec les gens pour qu'ils construisent quelque chose avec nous autres.
Dans le fond, c'est pas une formation genre un instituteur
pour
des
étudiants.
On veut pas
de gens qui vont prendre des notes.
C'est
on veut qu'ils construisent, qu'ils réalisent.
OK.
Qui prennent conscience, par exemple, je parle beaucoup de rétablissement, moi, puis c'est une chose qui, comment dire, faut que les gens ils sachent qu'il y en a du rétablissement
ouais.
qui est possible.
Est-ce que tu as un plan de cours? Est-ce que tu t'es monté un plan de cours?
Oui,
on monté
a,
un plan de cours?
On a un plan, oui, oui.
Mais
on ne part pas de scratch, là.
Mais tu es quand même l'enseignant, ou en tout cas le formateur.
Moi, je suis un formateur.
Ouais.
Puis formateur avec mon expérience, à l'expérientiel.
Oui, c'est
parce
ça.
Parce que c'est très différent d'un formateur qui est un enseignant, par exemple,
ouais.
ergothérapeute.
Comme vous avez dit aussi dans le temps, je pense que Mireille devait parler de ça, puis toi aussi
oui.
dans le temps, puis il y avait Alexandre aussi qui était avec Mireille, mais vous nous disiez tous que c'était un peu, comment dirais-je, c'est ça, comme tu disais, c'est de la participation, mais en même temps, c'est un modèle qui n'existait pas avant, dans le fond, c'est vraiment
non,
un nouveau genre.
C'est une nouvelle façon. Puis je pense que ça intéresse les gens parce que ils sont amenés à prendre conscience, à relever des défis, ne serait-ce que de prendre la parole dans une formation,
ouais,
tu sais,
ouais.
De d'expliquer son parcours, de se présenter, de réaliser où ils en sont dans leur rétablissement. Comment ils voient, et j'en donne une autre aussi qui est sur la stigmatisation.
OK.
Comment ils voient la stigmatisation, s'ils en ont souffert, s'ils n'en ont pas souffert, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça, la stigmatisation,
ouais.
comment dealer avec ça. C'est tout des propos qui
ouais.
sont...
C'est des pistes de solutions aussi.
Des pistes de solutions, exactement.
On nous dit aussi que les gens sont pas... C'est un peu mélangé, c'est pas juste des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale,
non.
Ça peut être des gens qui sont intéressés par le sujet, qui suivent
les
la
gens
formation.
Intéressés par la santé mentale.
Ouais.
T'as pas besoin d'avoir souffert de maladie mentale. Un proche peut de toi peut avoir souffert, puis...
Tu veux en savoir plus, tu veux
savoir plus.
L'aider.
Il y a toujours... Pour moi, il y a toujours la partie qui... Moi, c'est très personnel. J'espère donner de l'espoir aux gens, tu sais, de
ouais.
dire que quand je raconte mon vécu, ben de dire que c'est possible de se rétablir, tu sais.
C'est sûr, exactement. Peux-tu nous rappeler, ça fait combien d'années que toi, personnellement, tu considères que tu travailles au rétablissement? Parce que ça fait longtemps que tu m'en parles.
Je te dirais que ça fait plus de 20 ans.
Oui, c'est ça. Que tu crois en ça puis que tu le prends
oui,
aussi.
C'est sûr, il y a toujours des reculs. Tantôt, j'étais chez nous puis je fouillais dans ma bulle. Moi, des fois, je pogne des angoisses. Je sais pas trop pourquoi. Je cherchais une photo de moi.
Une que tu sais qui existe, mais où elle est?
Elle est où?
Ouais,
dans,
ça, c'est
elle
fatiguant.
Où dans l'appartement? Ouais. Là, je me mets à chercher ça, puis je la trouve pas, puis je déplace des affaires. Puis là, je trouve une affaire... moi, te le dis, je trouve un condom.
OK.
Je trouve ça, puis qu'est-ce que ça fait, là?
Ouais.
C'est pas moi qui ai mis ça, là.
Cherchais une photo.
Je me souviens pas, je cherchais une photo. Puis là, moi, quand je vis des choses comme ça, c'est de l'anxiété, de l'angoisse qui monte.
C'est ça?
Ça revient sur le tête, tu sais. L'idée, c'est de pas rester avec, c'est d'en parler.
Ouais.
Puis de le raconter, puis ça finit par passer, puis de pas rester accroché à ça. Il y a des trucs aussi que j'ai, c'est que j'essaye de me rappeler les bons moments, les bonnes choses, les belles affaires qui me sont arrivées.
Ouais. C'est un des trucs pour, c'est ça, se rétablir.
Le positif.
Il faut avoir du bonheur dans la vie, il faut avoir quelque chose qui nous drive. Ou comme...
C'est pas tout noir, c'est pas tout sombre, puis c'est pas tout anxieux, puis anxiété, puis angoisse.
Ouais.
Il y a des moments où je suis quand même, je suis quand même heureux.
Ouais. Ouais.
Comme là, je suis heureux.
Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est beau faire de la radio.
C'est
là. Parler d'éduquer éduquer ou informer les gens. Là, puis avoir,
c'est une chose qui,
ouais.
qui
est gratifiante. Là.
Oui, exactement. C'est ça aussi. Tu sais, il y a toute l'estime de soi qui est dans le rétablissement puis dans la stigmatisation.
Ouais. Ouais.
L'estime de soi qui est importante. Puis il ne faut pas se tromper. Là. L'estime de soi, ça... Reviens pas en criant ciseaux, puis c'est pas toujours top notch, on dirait.
Ouais. Puis il n'y a pas de recette pour tout le monde.
Non, non, chacun a le rétablissement, c'est ça aussi.
C'est ça.
Chacun a le sien.
Mais est-ce que la formation, ça peut sûrement donner l'outil ou le portrait aux personnes pour qu'ils trouvent eux-mêmes leur chemin?
Ils peuvent prendre des bribes de ce qu'on fait, puis les appliquer à leur vie. « Ah, ça serait bon pour moi, ça c'est moins bon, ça m'intéresse moins. » Mais dans notre préparation, on a des choses comme ça. J'ai pas amené à ta presse, là, mais il y a comme 8... dans l'établissement, il y a 8 choses qu'on peut...
8 forces
qu'on... Je dis 8, là, si je me souviens... qu'on fait bien de regarder d'essayer de...
Ça guide un peu les gens.
Ça guide un peu.
Mais techniquement, quand tu fais une formation, ça dure quoi? Y a-tu un temps
limité? Dure 2 heures.
2 heures, quand même, assez long.
Avec une pause, puis 2 heures. 3 rencontres, 2 heures.
OK. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de monde, en général?
Oui, il y a pas mal de monde. On est... Vois-tu, les dernières qu'on a données, on était... 15 à peu près.
OK, quand même. C'est intéressant.
Des fois, il y en a 20 qui s'inscrivent, mais il y en a qui se désistent.
C'est quand même intéressant parce que ça s'est né il n'y a pas si longtemps, là, avant la pandémie. Ça sera toujours un avant, un après. Là, parce
c'est ça.
Je pense avant la pandémie, on avait reçu Mireille puis Alexandre qui nous parlaient de ça. Fait que dans le fond, ça fait quand même peu d'années. Donc, comment tu vois la suite? T'aimes ton expérience, évidemment.
Oui, j'aime beaucoup ça. J'aime ça. Je vois des gens qui s'établissent. C'est important.
C'est ça.
C'est important de voir ces gens-là.
Que tu le prônes toi-même. Puis là, tu vois des gens qui
d'autres qui
veulent.
Qui s'arrivent.
C'est ça.
Qui sont dans ce chemin-là aussi. Puis comment je veux ça pour l'avenir? Je veux toujours m'impliquer, oui. Mais dans l'établissement, il faut pas perdre de vue que c'est un jour à la fois. Ça aussi.
Ouais, il peut y avoir des rechutes,
Il y a des choses qui arrivent dans la vie. T'sais, t'sais. Moi, je suis pas vraiment dans l'idée de regarder loin en avant.
Ouais.
Aujourd'hui, je te dirais, oui, je continue.
Ouais.
Mais une journée à la fois.
C'est ça.
Mais je veux pas...
Non, c'est ça.
Pas mettre la charrue de 20 bœufs.
Mais comme peut-être autre question, Bernard, si tu permets, on peut le dire, tu es dans la soixantaine.
Oui, j'ai 65 ans.
C'est ça. Puis t'as exploré des choses, t'as vécu des mais comment tu peux, aujourd'hui, quand tu regardes tout ça, là, comment tu peux faire un genre de portrait avec tout ça? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tu es heureux d'avoir fait le bout de chemin que tu as fait?
Ça fait du sens parce qu'il y a un ami, j'ai un vieux chum, ça fait 40 ans qu'on se connaît.
Ouais.
Puis lui, il me dit, tu sais, ton passé, c'est ta richesse. C'est vrai, c'est une richesse. Mon passé, c'était pas très beau. C'était pas très... Tu sais, l'autre fois, je parlais, je disais, c'est ça, quand t'es ignorant, il y a une personne qui m'a repris, elle m'a dit, t'étais pas ignorant, t'étais malade.
C'est une nuance. Une nuance importante, ouais.
Mais... Il y a une part d'ignorance aussi dans la souffrance. Il y a une façon de vivre qui est qui est pas approprié,
ouais.
Qui est une façon de vivre qui est pas simple puis qui est difficile puis comme on c'est des expériences ouais. Au fond.
Mais en même temps, tu dois être content de l'action que tu as portée parce que t'étais toujours en t'as toujours été en action jusqu'à aujourd'hui puis ça va continuer. Tu sais, t'as écrit, t'as participé ici à l'émission depuis 99 quand même, faut le faire. Puis t'as fait plein d'autres choses, plein d'autres implications. Fait que si on est dans l'action, j'imagine, on a des chances qu'on va un peu plus
réussir. Ça va mieux un peu, ouais. Oui, c'est sûr.
Parce que
si
tu restes chez vous à rien faire...
Si tu restes à te bercer, tu vas te bercer.
Puis ça risque d'être déprimant.
Ça va être
là.
Plate longtemps.
Parce qu'il y a des bonheurs là, à faire des choses qu'on aime.
Oui, effectivement. Les formations, ça m'intéresse. Je m'implique aussi avec le TNM au théâtre.
C'est vrai, tu as participé à plusieurs spectacles.
Cette année, on commence autre chose, quelque chose de différent.
Ouais.
J'ai signalé mon désir de participer, ça m'intéresse.
Ouais.
Puis je vais essayer de faire de mon mieux là aussi.
Ah, c'est intéressant. Avant de terminer, Bernard, on peut rementionner là, que les gens qui tapent ça pour en savoir plus ou s'inscrire, dans le fond, c'est ouvert aux gens, là, ces centres d'apprentissage, chanter, rétablissement, son chanson, tape ça là, dans un moteur de recherche.
Trouver.
Puis là, c'est facile, j'imagine, de s'inscrire
selon
les régions.
Ils vont voir, oui, selon les régions. C'est sûr, comme c'est virtuel, ben c'est accessible à tout le monde,
c'est ça.
À toute la province. On parlait hier, peut-être qu'on va aller vers le Canada aussi,
oui.
Les francophones canadiens.
Ouais. Puis il y a plusieurs formateurs, là, toi t'en es un, mais
oui,
il y a plusieurs formateurs.
Oui, il y en a pas mal. Il y a beaucoup de blocs de formation.
Ouais. Ben, merci beaucoup, Bernard Saunier. C'était fort intéressant. Merci d'avoir été en studio.
Ça m'a fait plaisir. C'est gentil de me recevoir.
Ben, c'est très gentil d'être venu. Puis honnêtement, bonne continuation. C'est un beau projet. Puis on va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci. Bye-bye.
Bye.
Tu te souviens? Les couleurs sur les baskets. Les crayons dans les cassettes, je rembobine, tu te souviens? Tous ces rêves pleins nos disquettes, à Paris c'était les States, 1987. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. C'était rien que 12 mois sur la planète. L'URSS in excess. On chantait I want your sex. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. C'est tout ce que je te souhaite.
Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio.
C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Aujourd'hui, ton sujet, violence conjugale et téléthérapie.
Oui, je vais vous parler pour cet Espresso, surtout d'une série télé qui s'appelle « M'entends-tu ?». C'est une série télévisée québécoise qui ne passe plus à la télévision conventionnelle depuis quelque temps, mais qu'on peut regarder encore sur le site Internet de Télé-Québec.
Oui, c'est ça, c'est trouvable. Il y a plusieurs épisodes, je pense.
Oui, il y a eu 3 saisons. Il y en a 31 épisodes, je pense.
Oui, 31, je crois que c'est ça. Ouais.
Alors, cette série a d'abord été mise en ligne le 15 décembre 2018 sur le site Internet de Télé-Québec et à la télévision dès le 16 janvier 2019. Le synopsis est le quotidien de Caroline, Fabiola et Ada, 3 jeunes femmes montréalaises provenant d'un milieu défavorisé qui, malgré leurs différences, sont de grandes amies, toujours présentes l'une pour l'autre. La 3e et dernière saison de la série a été diffusée du 23 mars au 11 mai 2021 à Télé-Québec. M'entends-tu a remporté de très nombreux prix au Québec et ailleurs et est distribuée par Netflix dans 190 pays et en 30 langues. Ça, c'était pour la définition générale, si tu veux, de la série.
Donc, c'est un sujet qui rejoint tout le monde. S'il y a eu de l'intérêt comme ça à travers le monde, c'est quand même
exactement,
bien,
oui. Et d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « La violence conjugale à la télé peut avoir l'effet d'une thérapie de société ». C'est un article que j'ai trouvé sur le site de Radio-Canada, soit ici.radiocanada.ca. C'est un article écrit par Mme Cécile Gladel, qui est journaliste et recherchiste. Elle nous dit « Des séries télévisées, comme M'entends-tu, placent parfois la violence conjugale au cœur de l'intrigue. C'est un sujet délicat qu'il importe d'aborder avec dignité, autant dans l'écriture que dans le jeu. Et quand c'est bien fait, de telles séries peuvent avoir un effet bénéfique. Une série, c'est une façon de se parler de nos bibittes, de nos problèmes. Ça devient une thérapie de société », explique Claudine Thibodeau, qui est porte-parole de SOS Violence Conjugale. Dans « M'entends-tu », diffusé sur les ondes de Télé-Québec, le discret personnage de Caroline, joué par Ève Landry, vit une relation amoureuse violente qui s'aggrave au fil des épisodes. Lors de l'écriture de la série, les autrices Florence Lompré et Pascal Renaud-Hébert voulaient éviter de tomber dans les clichés. On avait la volonté profonde que ce soit respectueux et bien fait. On voulait que les femmes victimes se reconnaissent. Elles voulaient aussi éviter de sexualiser le corps de la femme dans des moments de détresse. Il faut faire très attention, soutient Mme Renaud-Hébert.
C'est un sujet délicat, effectivement. C'est le traitement qui fait la différence. Est-ce que ça va être bien perçu? Est-ce que ça va être éducatif?
Est-ce que ça va être réaliste?
Effectivement. Il faut que ça soit réaliste, mais en même temps, il faut que ça amène un côté qui apporte quelque chose aux gens. Là, ouais.
Exactement, oui. Les 2 jeunes scénaristes ont fait beaucoup de recherches et sont allés trouver de l'aide auprès d'organismes. Elles ont consulté l'organisme SOS Violence Conjugale, qui propose de nombreux outils tant pour les victimes que pour les personnes violentes ou leur entourage. Elles ont aussi rencontré des femmes victimes. Madame Pascale Renaud-Hébert nous dit « Nous ne sommes pas des spécialistes en violence conjugale. Il y a des personnes et des organismes dont c'est la mission. On se rend compte que la population n'est pas outillée pour en parler et agir. On parle de violence conjugale quand la Journée internationale du droit des femmes s'en vient, mais au quotidien, on n'en parle pas tant que ça. Un pourcentage infime de femmes dénoncent leur agresseur par rapport au nombre de victimes. » M'entends-tu n'est pas la première série à parler de violence conjugale. Il y avait eu Big Little Lies et Le Monstre qu'il avait déjà fait, ainsi que plusieurs autres. Claudine Thibaudeau, qui est aussi travailleuse sociale et responsable du soutien clinique et de la formation à SOS Violence conjugale, cite également la série Fugueuse et 19-2. Pour souligner leur impact dans la société québécoise. Elle donne aussi un exemple très personnel. En matière de violence conjugale, nous dit Mme Thibaudeau, les premières fois qu'on en a parlé, c'est lorsque Roger a frappé Evelyne dans la série Des Dames de cœur. Je m'en souviens, ça a peut-être changé mon cheminement professionnel. De telles séries créent une préoccupation sociale nécessaire pour changer les choses. Claudine Thibaudeau est formelle. De telles séries bien faites sont importantes car elles envoient le message à l'ensemble de la société que de telles situations existent.
Et sans que ça soit une série, je me souviens à l'époque avec un grand A qui est écrit par Jeannette Bertrand qui avait traité de ce sujet-là. C'était pas une série, là, mais c'était percutant aussi, puis c'est une façon de faire parler du sujet, là, effectivement.
Mm-hmm. Pascal Renaud-Hébert donne l'exemple d'une scène dans M'entends-tu, quand un policier dit qu'il ne peut intervenir si la femme ne présente pas de marque de violence apparente et que la victime doit raconter ce qui s'est passé. C'est important car peut-être que quelqu'un va se reconnaître. On est victime ou témoin, même s'il n'y a pas de traces physiques, rappelle-t-elle. Voir leur réalité au petit écran permet donc aux victimes de réaliser que leur situation est bel et bien réelle. Une série aide les victimes à identifier la violence comme étant vraie et à normaliser leur réaction. Une femme va se trouver normale au lieu de penser qu'elle est folle, car elle n'avait pas identifié qu'elle vivait de la violence. La violence conjugale laisse d'immenses traces dans la vie d'une personne. Madame Thibaudeau nous dit « c'est un stress post-traumatique et l'agresseur se sert de ce qu'il crée contre sa victime. » Alors, je vais m'arrêter ici, Yvan, et je poursuivrai un peu plus tard.
Oui, un peu plus tard sur le thème « Violence conjugale et téléthérapie ».
Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair.
Je suis accompagné maintenant de nos chroniqueuses, Marjolaine Rivet-Beauregard et Justine Fortin. Bonjour à vous deux.
Salut!
Salut! Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la communication scientifique, qui est très importante, puis vous œuvrez dans le domaine de la recherche. Donc comment vous voulez aborder ce sujet-là?
Bien, premièrement, on veut vous partager le fait que le monde de la recherche, là, c'est une mine d'or. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations qui se retrouvent à cet endroit-là. Donc, quelqu'un qui se pose une question, c'est probablement sûr qu'il y a déjà eu une étude qui répond à cette question-là. Malheureusement, le problème, c'est que ces résultats d'études-là restent souvent à travers la communauté scientifique, donc les populations cliniques chez qui on fait nos études ou la population générale qui est non scientifique a de la difficulté à avoir accès à nos résultats d'études. Donc, c'est un peu de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Ouais.
D'ailleurs, avant d'entrer en onde, je vous disais, tu sais, comment c'est rafraîchissant d'avoir, justement, vous êtes deux jeunes femmes, disons, quand même dans le début de votre carrière. Mm-hmm. C'est rafraîchissant de voir que beaucoup de... On sent une espèce d'effervescence au niveau de la recherche, puis au niveau du monde, puis il y a beaucoup de jeunes, j'ai l'impression, qu'ils prennent leur place. Ouais. Puis en plus, avec la communication scientifique, bien, vous franchissez un autre pas, là.
Ouais.
C'est ça aussi.
Oui, exactement. Mais je pense, en fait, que justement, comme tu viens tout juste de mentionner, il y a un besoin qui a été identifié, justement, dans les dernières années. Et puis, c'était pas nécessairement une façon de fonctionner qui était mise de l'avant auparavant, mais on a vraiment réalisé qu'il y a un gros débalancement entre, justement, ce qu'on prend des populations avec lesquelles on fait nos recherches. Donc, justement, on prend les impôts de la population générale pour financer nos recherches, mais on prend aussi... On profite du fait que, justement, on va chercher des données dans la population, mais il y a une espèce de débalancement où est-ce que, souvent, ils n'entendent pas parler de ce qu'on a fait, ils n'entendent pas parler des résultats.
Ouais.
Puis on garde un peu toute cette information-là dans notre tour d'ivoire Donc, c'est vraiment important de rétablir ce débalancement-là, puis justement de s'assurer que les résultats qu'on a, puis l'information qu'on a obtenue grâce à eux, soient capables de leur être redonnés aussi.
Est-ce que ce mouvement-là était un peu parti avant que vous arriviez? Parce que ça fait quand même pas longtemps que vous vous intéressez au sujet, ou il y a comme eu un... Bien, vous êtes arrivé au bon moment, finalement, mais comment ça... est-ce que c'est récent qu'on se préoccupe de ça, de mieux communiquer les résultats?
Je dirais que oui, c'est quand même assez récent. Donc, avant même qu'on soit dans le monde de la recherche, là, la communication se faisait vraiment très entre les chercheurs, puis même encore aujourd'hui, mais on voit quand même un changement, bien sûr. Mais comment on communique en tant que chercheur, c'est vraiment à travers les congrès scientifiques, à travers les articles scientifiques qui sont inaccessibles pour la population générale. Donc, ça coûte très cher aller au congrès. Normalement, c'est pas publicisé dans des médiums ou des médias que les gens ont accès. Puis les articles scientifiques, pour avoir accès, souvent, ça coûte très cher. Mm-hmm. Et c'est accessible gratuitement, mais à travers les institutions universitaires. Donc, c'est quand même encore comme ça que ça fonctionne pour la grande majorité de nos communications. Mais c'est vrai qu'on voit quand même un petit changement là, qui commence, puis que nous, on prend part à ça, justement,
ouais,
aussi.
Ça doit être motivant pour vous deux, en fait. Ouais. Puis pour tous les autres, toutes et tous les autres. Là.
C'est ça.
Exact. Puis en fait, je dirais surtout qu'il y a une popularisation de ce mouvement-là. Donc, on parle... il y a peut-être... Dans les 10 dernières années, il y a des papiers scientifiques qui sortaient de plus en plus sur ce qu'on appelle la dissémination des connaissances de la recherche, donc justement partager les informations qu'on a avec différents publics. Et puis, donc, on était vraiment dans une ère de recherche dans laquelle ce qu'on promouvoit beaucoup, c'est ce qu'on appelle le « publisher perish ».
Ce qui veut dire?
Ce qui veut dire, en fait, l'importance pour rester actif et pour rester vivant dans le monde de la recherche, c'est de publier. Donc ça va vraiment toucher les sphères de la recherche. Ça va vraiment être de communiquer ce qu'on trouve avec d'autres chercheurs à travers l'écriture de manuscrits, l'écriture d'articles, donc qui vont être partagés dans les journaux que Justine faisait juste mention.
Ouais.
Puis il y a maintenant... Ben en fait, dans les 10 dernières années, il y a eu ce nouveau mouvement-là qui a commencé à sortir, qui s'appelle... Be visible or vanish, qui se traduit par soyez visible ou donc
disparaissez. Ouais.
Exactement. Donc, c'était un peu présent avant, mais ça a récemment été popularisé. Puis maintenant, je dirais qu'on a vraiment la chance de faire partie de cette table tournante, donc cette nouvelle génération-là qui cherche vraiment à pousser les connaissances puis à les partager à l'extérieur de la communauté scientifique.
Que toutes les deux, autant Justine que Marjolaine, vous êtes plus dans le domaine relié à la santé mentale, mais à tous les niveaux de la recherche, je pense qu'il y a comme ce mouvement-là un peu de mieux faire connaître à la population, c'est ça?
Exact, ouais. Exact. C'est ce qu'on voit beaucoup. Puis tu sais, pour faire du pouce sur ce que Marjolaine elle disait, un bon chercheur dans le temps du publish or perish, c'est vraiment la personne qui a le plus de publications scientifiques, mais on n'entend pas parler de ces publications-là si on fait partie de la communauté non scientifique. Mais ça, c'était la définition d'un bon chercheur. Aujourd'hui, pour être un bon chercheur, ben, il faut que tu ailles voir la population que tu étudies, tu leur parles des résultats que tu as obtenus. Puis ça, c'est quelque chose que les plus vieux chercheurs, ben, ils n'ont pas appris ça, eux, quand ils ont commencé la recherche. Puis nous, c'est un peu ça qu'on défend. Il faudrait qu'on soit formé parce que c'est facile à dire et un peu plus difficile à faire.
Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à... Vous le faites via la radio ici, mais aussi par balado, tu sais. Mm-hmm. T'as créé une balado, Marjolaine. Donc, c'est ça prend les moyens aussi. Puis quelqu'un qui va être apte à faire ça, c'est pas tout le monde qui a la communication facile. En fait.
Exact.
Oui, puis justement, pour renchérir, il y a tellement de facteurs qui font en sorte que ce qui est... La façon qu'on procède en ce moment n'est pas accessible à la population générale. Donc, en plus justement des différentes conférences, puis comment est-ce qu'ils sont mises de l'avant, comme Justine a mentionné, ben on utilise du jargon tellement précis que même un chercheur, juste dans un domaine juste un peu différent, peut se perdre complètement dans le jargon, dans les concepts. Donc, on perd vraiment une grosse population quand on reste dans ce vocabulaire-là. Donc, il y a ça. Puis il y a aussi le fait que souvent, ce qu'on fait puis ce qu'on discute, c'est tellement précis. Donc, on manque de contexte. On le contextualise pas dans la vie de tous les jours. Donc, ça fait en sorte que c'est très, très difficile de s'identifier avec ça. Donc, ben non seulement on comprend pas, mais aussi on perd intérêt.
Oui, c'est ça, exactement. Non, c'est sûr que c'est vraiment un processus qui est bien entamé, puis que vous vous efforcez de le faire. Là. Déjà, vous êtes ici, fait que c'est déjà une bonne idée, mais plus toutes vos autres activités, effectivement.
Oui. Puis on a aussi trouvé des moyens là, qui peuvent justement faire en sorte que la communauté non scientifique puisse avoir accès à ça. Là. Donc, je ne sais pas si Marjo, tu veux en parler.
Mais justement, comme tu viens tout juste de mentionner, Yvan, donc il y a justement utilisé des différents canaux de communication. Donc maintenant, on est ici à la radio. Il y a le balado, comme tu as mentionné, que j'ai fait avec Justine puis Rémi.
C'est intitulé « Sort de ma tête ».
Exact,
ça?
COVID-19 sort de ma tête.
Pour les gens qui veulent le trouver et l'écouter.
Oui. Exactement. Donc, il y a justement, donc, prendre des canaux, mais des canaux qui sont adaptés à la population que tu veux aller chercher. Donc, par exemple, nous, quand on a fait le balado avec Rémi, on voulait vraiment aller chercher des jeunes. Donc, on a utilisé un format qui est très, très populaire ces temps-ci. Si, par exemple, encore avec les jeunes, on peut utiliser les réseaux sociaux, dont Instagram, Facebook, tout ça. Si on veut aller chercher des populations un peu plus âgées, ben là, à ce moment-là, on peut utiliser les médias traditionnels, comme les journaux, comme la télévision, ces choses-là. Donc, il faut bien connaître la population pour être capable de s'assurer que l'information se rend à eux.
Ouais.
Mais au-delà de ça, ça nous prend une maîtrise incroyable de notre sujet. Donc déjà que c'est pas facile d'en parler dans un vocabulaire qu'on apprend dans nos cours, qu'on apprend dans nos recherches, ben d'être capable de le simplifier, de donner des métaphores, puis de donner des exemples avec lesquels les gens peuvent s'identifier, c'est un niveau d'habileté qui est vraiment c'est next step, c'est le prochain niveau.
Ouais.
Puis justement, il faut aussi avoir faut être capable de sortir de notre zone de confort. Parce que comme Justine l'a mentionné, nous, on est drillés pour aller dans des conférences, pour publier des articles. Fait qu'on on se fait pas promouvoir l'importance d'aller hors de notre chemin pour parler avec la population générale.
Selon les différents médias, comme tu dis, là, puis, la télé, peu importe. Puis à titre d'exemple, on a vu pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de scientifiques. Oui. Puis il y en a qui étaient meilleurs que d'autres. Fait que, dans le fond, il y a peut-être des modèles là-dedans de dire ben, il y a moyen de rendre ça simple pour les gens qui écoutent, puis que ça soit intéressant quand même. T'sais.
Oui, c'est ça. Donc, on a des exemples là, de personnes ou de scientifiques, justement, qui sont venus vers l'avant pendant la pandémie, même avant ça.
Ouais.
Premièrement, on a le pharmacien. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont entendu parler de lui. Via son émission à la télé, il passe souvent dans les médias, puis ça, c'est justement un scientifique qui vient faire de la vulgarisation pour la population générale.
Ouais.
Sinon, on a FQTM, faut que tu m'expliques. Elle est via Instagram, puis elle fait vraiment des publications informatives sur son sujet de recherche et plusieurs sujets, dans le fond. Sinon, on a les Fonds de recherche du Québec. C'est pas un scientifique, mais c'est quand même l'organisme subventionnaire ici au Québec là, qui subventionne nos études, qui nous donne des bourses. Et eux, ils ont vraiment aussi adapter leur demande de subvention et leur demande de bourse pour justement que la vulgarisation soit quelque chose d'important, autant pour les chercheurs que pour les étudiants. Ça nous pousse un peu plus à être encouragés à faire ça. Et sinon, au niveau des laboratoires de recherche, donc on fait souvent des cafés scientifiques, ça commence à arriver, dont dans notre laboratoire, on en a fait un, là, c'est Marjo qui l'avait organisé. Et ça, c'est on prend un sujet, on invite la population générale à venir parler d'un sujet, puis c'est vraiment d'égal à égal. Donc, le chercheur vient partager ses résultats, mais la population générale peut aussi venir poser des questions. Bien. Donc, c'est pas comme un cours magistral, c'est vraiment d'égal à égal, on en parle. Donc, on invite aussi les gens, quand vous voyez ces événements-là passer, de venir puis venir parler avec nous, parce que nous, on veut vraiment ouvrir la discussion, puis il faut vraiment que ça vienne des deux côtés, l'envie de prendre part à la discussion.
Et l'avantage, justement, de rendre de communiquer des résultats de recherche à la population, oui, comme tu disais tantôt, il y a des fonds qui sont utilisés, les impôts, choses-là, mais est-ce que vous attendez, comme chercheur, à avoir, je ne sais pas, plus de feedback, qu'on appelle, des gens, ou est-ce que vous voyez ça plus loin que juste se dire, ben on va faire connaître, oui, mais est-ce que ça va vous apporter une meilleure, quelque chose pour aller plus loin?
Bien, il y a tellement d'avantages à ça. On peut voir ça comme un cycle. Premièrement, le plus tu parles de ta recherche dans ta population cible, bien, le plus ils vont être intéressés. Puis ça peut te ramener plus de participation puis plus d'opportunités de continuer au niveau de ta recherche, parce que souvent, une des parties les plus difficiles du processus, c'est le recrutement. Donc, s'assurer que tu as assez de gens pour justement
étudier ton sujet, tu sais.
Exactement. Donc, il y a ça, mais en plus de ça, ben, le plus il y a un intérêt dans le public, ben, le plus tu peux être financé, donc le plus tu vas susciter de l'intérêt. Donc, c'est un peu comme un cycle, mais il y a aussi un format de recherche qui devient de plus en plus populaire puis qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est de la recherche participative. Mm-hmm. Puis c'est un type de recherche qui est tellement important parce que pendant des années puis des années, on faisait de la recherche qui était supposée être pour une population, mais la population n'avait pas un mot à dire nécessairement dans comment ces recherches-là étaient faites, ouais. comment ils étaient, comment qu'on les mettait en place. Donc, en discutant puis en voyant que les gens ont un intérêt, bien, on peut maintenant les impliquer dans les processus de recherche. Donc, la recherche va s'améliorer puis devenir plus adaptée à la population même ouais. que tu vises.
C'est intéressant, mais on a quelques secondes pour terminer déjà. Est-ce que vous avez, toi, des références à donner, peut-être l'endroit où vous œuvrez peut-être ou d'autres choses? Qu'est-ce que vous aimeriez dire avant de terminer?
Bien, c'est sûr que nous, on fait de la vulgarisation scientifique, donc on vous encouragerait à venir regarder notre page Instagram pour les gens qui sont sur Instagram. Sort de ma tête. Sinon, notre balado aussi, COVID-19, sort de ma tête. Et il y a plusieurs autres scientifiques qui le font. Donc, comme on l'a dit, le pharmacien, FQTM. Donc, on vous invite à aller chercher. Puis sinon, vous pouvez nous écrire. On va vous en envoyer également, là, ouais, dépendamment des sujets là, qui vous intéressent.
Et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Donc, Justine Fortin et Marjolaine Rivet-Bourgard, merci. Puis à une prochaine, chronique.
À la prochaine.
Au revoir.
Merci.
Il y a des chapeaux de paille, des ombrelles paillas, des robes d'été. Il y a les mères en affaires et les mômes qui braillent et les pères agacés. Il y a la vieille qui demande encore un râpe de viande et puis son café. Et toutes les blouses blanches pour qui c'est jamais dimanche, jamais l'été. Il y a la radio qui bave encore la voix d'un malade qui dit on va gagner. Des bravos sonores pour le gâteau qu'on vient d'apporter. Elles ont toutes le sourire, des perles aux poignets. Ils ont tous les dents blanches, tous étudiés. Ça chante, ça danse, personne ne sait qu'en bas le pire est arrivé. En bas y a plus de la flotte et des gens qui barbotent. Habits trempés et ses mains qui s'accrochent aux choses lourdes et mortes qui vont bientôt couler. Quand le prêcheur s'avance, aussitôt chacun pense lui, il va nous sauver. Il est tout blanc et tout ce qu'il pense, c'est qu'il sait pas nager. Des armoires, les verres ont juste teinté. Il y a le bruit des affaires et les belles manières. Et puis, on est assuré. Il y a le bruit des machines et l'orchestre imagine qu'on va continuer. Alors il remet ça avec cet air d'autrefois qui nous faisait danser. On pleure, on se cogne à toutes les portes et tout est verrouillé. En bas on comprend le fin fond du plan, même sans avoir étudié. On est des milliers, il y a quelques canaux et ils sont réservés. Ombrelles paillas, des robes d'été. Sur le marbre des tables, les verres à champagne commencent à glisser.
Vous écoutez Folie Douce. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission.
Nous poursuivons maintenant avec l'espresso allongé et le sujet violence conjugale et téléthérapie que tu as débuté plus tôt dans l'émission, Pierre.
Oui, largement d'après un article que j'ai trouvé sur Internet et qui s'appelle « La violence conjugale à la télé peut avoir l'effet d'une thérapie de société ». C'est un article que j'ai trouvé sur le site de Radio-Canada, soit ici.radiocanada.ca. C'est écrit par Mme Cécile Gladel, qui est journaliste et recherchiste et qui nous parle de cette série québécoise « M'entends-tu » qui ne passe maintenant plus à la télé conventionnelle, mais qu'on peut trouver sur,
le site de Télé-Québec lui-même. Oui, de plus en plus de séries, d'ailleurs, ont une plus longue vie comme ça en étant sur le web, ce qui n'est pas une mauvaise affaire quand on a manqué certains épisodes.
Surtout les bonnes séries.
Oui, effectivement.
Oui. Alors, je poursuis ma lecture de l'article. Madame Gladel nous dit « Les femmes peuvent dénoncer leur conjoint beaucoup plus tard après avoir vu une telle série. En violence conjugale, les choses ne se passent pas rapidement. Il y a de nombreux dangers et enjeux. Quand une victime ne bouge pas, c'est qu'elle a de bonnes raisons. Tout ce qu'on peut faire pour aider la société à comprendre les victimes est utile. » Mais il est important que les femmes soient de plus en plus validées et solides pour qu'elles puissent demander de l'aide au bon moment, ajoute Mme Claudine Thibodeau. Toutefois, la travailleuse sociale souligne qu'il peut être aussi difficile pour des victimes de voir les images de la violence, même si ça peut aider à mettre des mots et à aller chercher de l'aide. Ça peut se comprendre, je pense.
Oui, absolument.
La plus récente campagne de SOS violence conjugale, qui s'appelait c'estpasviolent.com, s'adresse aux plus jeunes avec des mises en situation. On participe en se mettant dans les souliers d'une victime lors d'un échange par texto. Plusieurs personnes nous ont écrit en disant qu'elles avaient déjà fait de tels gestes. Il y a une plus grande ouverture chez les jeunes. On doit montrer que ça ne mène à rien de bon, qu'on va perdre la relation. Et ça peut amener à une remise en question, explique Mme Thibodeau. Pour montrer des situations de violence conjugale à l'écran, il faut que des actrices et acteurs jouent ces rôles difficiles. Celui qui incarne Kevin, le conjoint violent de Caroline dans M'entends-tu, qui s'appelle Victor Andrés Turgeon, a été profondément marqué par ce personnage, qu'il a habité même après la fin du tournage. Avant, en lisant le texte, il s'est dit « Je me suis demandé dans quoi je m'embarquais. C'est que je m'approprie beaucoup les torts de mes personnages. Je vois le négatif dans mes traits de personnalité. Quand j'avais joué Henri, un personnage niaiseux, je me suis dit que c'était moi. Même chose dans mon rôle de père distant qui se sent opprimé par la société dans Joulix, explique-t-il. » Le fait que l'acteur connaissait bien Eve Landry l'a aidé à se préparer à jouer ces scènes difficiles. Il nous a dit « Je faisais confiance à Eve pour me le dire si je lui faisais mal. On en parlait beaucoup avant. On trouvait aussi les manières de se toucher selon les angles de caméra. Les scènes les plus physiques n'étaient pas les plus compliquées. C'était très technique et très préparé. » Et même si l'acteur Victor Andrés Turgeon et l'actrice ont eu quelques bleus après certaines scènes, tout était chorégraphié pour que le tournage se déroule en toute sécurité.
Il faut que ça soit crédible, mais en même temps, effectivement, il ne faut quand même pas se blesser, c'est sûr.
Exactement. Ouais. En lisant le scénario, le comédien s'est aussi interrogé. « Je sais que je peux être frustré parfois derrière le volant, nous dit-il. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis demandé qui j'étais, mais je savais que je n'étais pas du tout comme Kevin, nous dit toujours ce même Victor André Turgeon. D'ailleurs, il soutient que ce rôle lui a permis de grandir et de saisir un peu plus les racines de la violence conjugale. « Je comprends d'où part Kevin, nous dit-il. Il n'a pas été élevé pour savoir comment gérer ses émotions. Je ne suis pas capable de cette violence conjugale. Mais je peux être exaspéré. Je ne veux jamais aller là. Ça m'a beaucoup réveillé. Si cette série permet de sensibiliser tant les membres de la distribution que la société, l'une des volontés des autrices de la série est aussi de montrer le cycle de la violence. Les périodes sont toujours les mêmes. Il y a la lune de miel qui est de plus en plus courte, les moments de crise où les taux se resserrent. Les femmes sont déprogrammées et isolées. Quand on ne l'a pas vécu, Il est difficile de comprendre que la femme retourne vers son conjoint et que l'amour est plus fort. Ce sont aussi des femmes très isolées. Et quand il y a des enfants, c'est encore plus complexe, nous dit Pascal Renaud-Hébert. Par ailleurs, le personnage de la mère de Caroline, aussi victime de violences de la part de son mari, le père de sa fille, se rend compte que le cycle se perpétue. Elle l'a vécu et sa fille a internalisé ses comportements, constate la co-autrice. Et dans un dernier article connexe à cette série, dans un court article qui s'appelle « C'est fini, fini, fini pour m'entends-tu » avec un point d'interrogation. C'était sur le site de La Presse, soit lapresse.ca. C'était écrit par M. Hugo Dumas, le journaliste à La Presse. Et il cite l'auteur et actrice Pascal Renaud-Hébert qui disait « Normalement, les maquilleurs utilisent du fond de teint pour améliorer notre apparence. Mais pour le rôle de Karine, il me mettait de la crème pour que ma face luise encore plus. D'ailleurs, presque toutes les actrices de M'entends-tu ont joué sans fard. Ça prend du courage pour se mettre ainsi à nu en cette époque des retouches excessives, d'obsession de la jeunesse et de téléviseurs ultra-méga trop HD. » Madame Pascal Renaud-Hébert nous dit « Oui, ça demande un certain lâcher-prise. Ça ne prenait pas d'orgueil pour jouer dans M'entends-tu. On veut voir du monde vrai dans notre télé. » C'est cette authenticité qui nous a fait craquer pour l'univers, à la fois drôle et très dur de ces trois amies prises dans des cycles de pauvreté et de violence. Pour écrire les 30 épisodes de M'entends-tu, Florence Lompré et Pascal Renaud-Hébert ont interviewé des policiers, des intervenantes de la DPJ et autres. Et je dois m'arrêter ici. L'article s'appelle « C'est fini, fini, fini pour m'entends-tu ».
Et on peut chercher sur Télé-Québec la série pour voir les épisodes. Merci beaucoup, Pierre.
Bienvenue.
Encore en retard à job, il a encore fallu que je vide ma douce. Quand je me suis levé, je filais encore. Baiser 3-4 fois sur snooze. Fait que j'ai perdu ma job. Qu'est-ce que je vais faire à cette heure? J'ai pas besoin de me pointer au chômage. J'ai même pas assez d'heures. Pis là, je le sais. Quand je vais rentrer à maison, madame va m'attendre avec 100 000 questions. Je vais dormir dans le salon. Anyway, tout ce qu'elle fait, c'est chialer. Fumer des tops, boire du café. Flamber mes payes d'un gratteur, pis le bingo. J'attends toujours le gros lot. Oh oh. Madame va m'attendre avec 100 000 questions. Je vais dormir dans le salon. Fait que me v'là à brasserie. Question d'oublier aujourd'hui. Tant qu'à ça, oublier demain. Tous les matins, le même refrain. Pis là, je le sais. Quand je vais rentrer à maison, madame va m'attendre avec 100 000 questions. Je vais dormir dans le salon. Je vais dormir dans le salon.
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème! Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
Quelques mots pour conclure ce rendez-vous. Alors, Pierre, on va nommer les chansons qu'on a entendues cette semaine à l'émission.
Oui, monsieur.
On a commencé avec « On s'aimera toujours ».
De « Cœur de pirate ».
On a entendu « 1987 ».
De Calogero.
Dans la deuxième demi, « Game Over ».
De Thierry Audiamont.
Et à l'instant, « Madame ».
De Mathieu.
Voilà, merci beaucoup pour ta mise en onde et le choix musical.
Ben, bienvenue, mon cher.
Merci également pour tes blocs espresso et allongés. Tu nous as informé un peu plus sur la violence conjugale et la téléthérapie. Ouais. Merci pour ça. Je remercie notre invité et collaborateur de longue date, Bernard Sauny, qui est venu à titre de formateur au Centre d'apprentissage chanté et rétablissement. Merci, Bernard, d'avoir été des nôtres à l'émission cette semaine. Nos chroniqueuses Marjolaine Rivet-Bourgard et Justine Fortin nous ont parlé de communication scientifique. C'est donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.